Eh bien, c'est Simone questionne, deuxième partie. Aujourd'hui, Gaëtan Rivoallant, vigneron et voyageur, qui nous avait choisi une pause musicale dont il va nous parler tout de suite.
Oui, donc du coup, j'ai choisi cette musique car en arrivant en Afrique du Sud, cette musique-là, je me suis aperçu qu'elle était très connue. En fait, c'est une histoire qui est assez drôle en soi. Donc, c'est un chanteur américain d'origine mexicaine, né dans les années 40 à Détroit, qui a commencé à se faire connaître au début des années 70, où deux producteurs ont travaillé avec lui, mais ses deux albums ont fait un bide total. Du coup, il a arrêté sa carrière de chanteur pour se retourner dans la construction de bâtiments. Et un de ses disques s'est trouvé par hasard en Afrique du Sud, où il était contacté. Et en fait, il s'avérait que cette chanson-là a été écoutée par toute la jeunesse blanche sud-africaine anti-apartheid. Et sans le savoir, Sixto Rodriguez était plus ou moins une légende en Afrique du Sud.
Ah oui.
Bon.
Et alors, il a connu la gloire à un moment de sa vie.
Plus ou moins parce qu'il est retourné en 1998, si je ne me trompe pas, pour 6 dates de concert à guichet fermé, mais il avait déjà 69 ans.
Donc il a connu le succès assez tard dans sa vie.
Assez tard, donc c'était plus ou moins assez. J'ai trouvé l'histoire assez belle en soi. Il n'a pas connu de succès au final.
Voilà. Mais ça va très bien avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va revenir dans notre parcours Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Afrique du Sud, Australie, Californie, Oregon. Ça fait beaucoup. C'est difficile de s'adapter à chaque fois quand on arrive comme ça.
Oui et non, ça dépend. Après, il y a beaucoup, la barrière de la langue peut jouer beaucoup.
Oui. Et vous parlez quoi en fait? Anglais à chaque fois, tout le
Et
temps?
espagnol.
Et espagnol.
Et espagnol, oui. Les premiers temps au Chili ont été un peu difficiles, car mon espagnol était plus ou moins oublié. Et ce n'est pas le même espagnol qu'on peut retrouver le castillan en Espagne. Après, en termes de culture, de ma personnalité qui suis assez sociable, assez ouvert, j'ai beaucoup de facilité à m'adapter aux gens et à leur mode de vie. Donc en termes de culture, j'ai pas été non plus trop bousculé. Et le fait de voyager dans des pays anglo-saxons, la culture ne change très peu qu'au final avec la nôtre, si ce n'est la nourriture.
La question que je me posais, c'est est-ce que tous ces domaines comme ça, de par le monde, ils ont chacun vraiment leur identité, c'est des univers viticoles très séparés, ou bien au contraire, ça forme une grande famille de la viticulture de par le monde et on retrouve des gros points communs. C'est ça la question que je me posais.
Oui, on peut retrouver des points communs. Après, je pense que dans les domaines où j'ai pu travailler, j'ai trouvé une identité à chaque domaine. Du fait de par son exposition, de par ses terroirs, de par son climat, de par les cépages qu'ils produisent.
Oui.
Car d'une région à une autre, que ce soit en Afrique du Sud ou au Chili, les terroirs ne sont pas du tout les mêmes, les climats aussi, les cépages changent. Et donc, du coup, je trouve que il y a une grande diversité.
Il y a une grande diversité de terroirs, ça, bien
De
sûr.
terroir
Ouais.
et même d'identité. Il y a une famille aussi entre chaque vigneron, comme on peut le retrouver en Bourgogne ou dans d'autres régions viticoles du monde.
Est-ce qu'à chaque fois, il faut prendre ses marques? Est-ce que c'est difficile de prendre ses marques quand on arrive? Ou bien finalement on se sent un petit peu en famille entre guillemets parce qu'un domaine viticole reste un domaine viticole, qu'il soit au Chili, en Bourgogne ou en Argentine?
Non, je pense qu'on a besoin de temps pour prendre ses marques, notamment dans des pays comme l'Afrique du Sud, où il y a un climat social qui est plus ou moins tendu, même à l'heure actuelle, où c'est pas évident de travailler dans la cohabitation entre les Noirs et les Blancs, avec ce sujet d'apartheid qui est, à mon sens, je pense, toujours d'actualité, mais caché.
Qu'est-ce qui travaille en Afrique du Sud dans les domaines viticoles? C'est les noirs, c'est les blancs, c'est mélangé?
C'est mélangé,
Ouais.
mais dans les vignes, ce sont les Noirs, et les postes à responsabilité, ce sont les Blancs.
Voilà, donc la frontière se retrouve encore.
Là, exactement.
Ouais. Et en fait, est-ce que vous vous êtes senti traité différemment selon les pays?
L'Afrique du Sud, je me suis vraiment senti traité différemment.
Oui, dans quel sens?
Bah, dans le sens où j'avais beaucoup plus de liberté, d'avantages en nature, et que d'autres n'avaient pas. Alors que ça faisait une quinzaine d'années qu'il travaillait.
Oui, parce que vous étiez le blanc qui venait travailler, ou non, pour d'autres raisons
Ou
encore.
l'étranger qui venait aider.
L'étranger qui venait aider.
Qui venait aider.
Ouais.
Et qui n'était pas forcément mélangé à tout le monde.
Et en fait, à chaque fois, vous étiez logé sur le domaine ou vous étiez logé à part, complètement ?
En général, je suis souvent logé à côté du domaine viticole. Et là, en soi, en Nouvelle-Zélande, où je retourne à Pegasus Bay, c'est dans la propriété du domaine.
Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce mode de vie qui est nomade quand même, hein ? C'est professionnel et nomade.
Ça l'est, en effet.
Avec un point d'attache en Bourgogne, parce que vous êtes bourguignon.
Je suis bourguignon, j'ai ma famille qui est basée en Bourgogne, mes amis en Bourgogne, mon travail qui est en Bourgogne.
Et pourtant, il y a l'attraction de l'ailleurs.
Parce que je pense que le fait d'avoir une expérience bourguignonne joue en ma faveur, et parce que j'aime les voyages aussi. J'aime rencontrer des gens, j'aime apprendre quotidiennement, parce que je pense que dans plusieurs professions, la profession viticole, vitivinicole, on en apprendra tous les jours, à mon sens. Et c'est d'une part, c'est ce qui m'a motivé à voyager, à sortir de mon cocon plus ou moins familial, de mon environnement bourguignon qui reste souvent le même. Moi, je voulais juste plus me voyager pour apprendre sur moi-même, en l'occurrence, voire partir seul à l'autre bout du monde, dans un pays où on ne parle pas la même langue. J'ai commencé à voyager à l'âge de 23 ans, où j'étais encore chez mes parents, où tout se passait bien, mais je n'avais pas encore pris mes responsabilités en main. Et le fait de rencontrer des gens de partout du monde, d'échanger entre chaque culture. Du coup, grâce à ça, je me suis fait des amis proches, notamment en Argentine et au Chili, que je continue régulièrement de voir.
Donc des amis en Argentine et au Chili.
Oui, principalement. Après, mon réseau aussi s'est élargi du fait que j'ai voyagé dans plusieurs pays et que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui venaient pas forcément de pays viticoles. Notamment mon premier voyage en Nouvelle-Zélande dans la grosse entité où on était 40 étrangers venant de 16 pays différents. Donc voilà, j'ai pu travailler avec des personnes de Turquie, de Slovaquie, de Hongrie, d'Allemagne, d'Autriche, de France, d'Italie, des États-Unis, du Chili, d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Un peu partout dans le monde.
Et c'est des gens qui viennent parce qu'ils pratiquent le métier viticole ou non, ils viennent là pour travailler, ou bien c'est des étudiants qui viennent en plus.
Quelques temps, ce sont des étudiants qui finissent leur diplôme, ou ils ont des stages à l'étranger à faire. Mais sinon, majoritairement, c'est des personnes qui sont dans le milieu viticole, qui veulent partir voyager à l'étranger, apprendre une autre culture, une autre manière de vinifier, un autre aspect de la viticulture aussi.
Justement, j'allais poser une question. Je veux dire, en Bourgogne, on avance quand même beaucoup vers le bio actuellement.
Oui.
Ça se retrouve dans d'autres pays du monde ?
Ça se retrouve. Mais c'est encore, à mon sens, je trouve que c'est encore assez limité. Mais après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques dans le vin. Et du coup, c'est compliqué pour certains domaines. Sur une superficie d'une quinzaine d'hectares, à mon sens, je pense que oui, c'est faisable, et oui, il y en a, mais sur des entités de 300 à des milliers d'hectares, c'est plus compliqué.
Oui, bien sûr, ça peut se comprendre. Est-ce que c'est facile d'avoir une vie à soi, malgré tout ? Parce que c'est quand même nomade, ça pose des problèmes ? Non, c'est un choix qui est fait délibérément, sans réserve ?
Non, sans réserve.
Sans réserve.
Avec peut-être un petit peu d'égoïsme. Mais non, c'est un choix qui est fait délibérément. C'est un mode de vie qui me convient. Pas éternellement, je suppose. Mais après, oui, il y a des concessions à faire. Il y a des choix de vie, au final, notamment sur les rencontres amoureuses.
Où c'est
plus compliqué.
Ça doit être compliqué, quand même.
C'est plus compliqué, en effet.
Ou alors, ça reste éphémère, et puis voilà. Gaëtan, si vous deviez définir chaque pays viticole, chacun de ces pays viticoles où vous avez travaillé, en un mot, qu'est-ce que ça serait en fait ?
Pour la Nouvelle-Zélande, j'aurais dit plutôt le côté émotionnel. L'Australie paradisiaque. L'Afrique du Sud multiculturelle. L'Argentine sentimentale. Le Chili découverte. Et les États-Unis possibilité.
Ah, c'est bien, bravo. Et alors, c'est indiscret de vous demander vos projets professionnels ?
Non, du tout. Dans quelques mois, normalement, je risque de signer un contrat permanent chez mon patron actuel. Et avec un des meilleurs amis avec lequel j'ai voyagé partout dans le monde aussi, mon ex-collègue, on a l'intention et l'ambition d'essayer de monter un négoce à côté de notre travail permanent.
Et c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays
Non, qui est bourguignon, mais lui de la Côte de Beaune.
Ah, voilà. C'est pas trop loin quand
non.
même. Voilà. Bon, ça nous a fait rêver quand même, hein, tous ces domaines viticoles. Quand on regarde votre page Facebook, il y a plein de belles photos.
C'est voilà. Gentil, merci.
Oui. Et puis, merci Gaëtan.
Merci
Claude.
On
vous souhaite une belle continuation. Avant le petit générique, vous allez nous dire ce qu'on va écouter dans la pause musicale suivante.
Alors, c'est un featuring entre Mos Def et Aretha Franklin.
Avant le générique de l'émission, c'était Gaëtan Rivoilan, vigneron et voyageur. Au revoir.
Au revoir.